Bonjour à tous. Je voudrais saluer aussi nos frères et sœurs en Gaspésie à Chandler. Que le Seigneur puisse vous bénir et rayonner de sa lumière qui reflète sur vous pour que toute cette région se tourne vers toi, Seigneur Jésus-Christ, et surtout vers ta parole. Délivre-nous des traditions des hommes qui, trop souvent, de manière narcissique, il y a plein de petits boss de bécosse qui ont ajouté des choses qui ne sont pas dans ta parole. Seigneur Jésus, sanctifie-nous par ta parole. Merci d'avance. En passant, c'est vraiment béni de voir ce qui se passe là-bas à Chandler. Priez qu'éventuellement une équipe avec un pasteur fondateur d'église puisse aller s'établir là-bas. C'est sûr que c'est un peu plus frais qu'ici. Quand je voyais le soir aux nouvelles qu'il faisait 20, là-bas il faisait 5. Sans compter le vent sur le bord de la mer. Fait qu'on est rendu au chapitre 4. OK, on va étudier ça ensemble. Au chapitre 4, verset 1, ça commence en disant « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. » Une chance que les enfants sont partis en bas. « Quoi qu'il soit maître de tout, l'enfant, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de nous racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai, pour la première fois, annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût, mais vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Donc, Paul est en train de vraiment de protéger, de délivrer les Galates des judaïsants qui veulent les mettre à nouveau sous tout un régime religieux d'œuvres méritoires, sous les fins d'Israël, sous la nourriture qui était dit sous Moïse, mais ils ont oublié finalement que Israël avait été sous la loi de autant civile, religieuse, nourriture, vêtements et les 10 commandements pour freiner le mal. Mais quand la loi freine le mal, comme dans notre société, ça n'enlève pas le mal. Pas vrai? Est-ce que vous remarquez que quand on est sur l'autoroute, puis on voit un char de police, on économise de l'essence? Donc, Paul, finalement, il sait très bien que dans la nature humaine, dans la chair humaine, pour être sauvé, c'est de faire confiance à Dieu. Faire confiance. Est-ce que vous réalisez, il faut se le rappeler entre nous autres sans arrêt. Si on est sauvé aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est la crème de la société. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui sont gentils ici. Hein? Puis il y en a qui sont des têtes à claques. On est tous défaillés. On est tous séparés de Dieu. Mais faites attention de vous regarder pour être sauvés. Il faut regarder au Seigneur Jésus-Christ. Ça a pris Dieu. Écoutez, quand on regarde l'œuvre, ça a pris Dieu lui-même pour s'incarner en être humain, pour vivre la vie. Il s'est limité à les limites qu'il nous avait données dans le jardin. Jésus s'est limité à être un être humain véritable. C'est pour ça que Paul le rappelle aux Philippiens. Il s'est fait un être humain véritable. Ce n'est pas un Dieu dégagé, tu sais, dans le sens qu'il s'est habillé en humain. Il s'est limité et il a vécu comme il nous a toujours demandé de faire. Le juste vit par la foi. Et ça, c'est très important. Jésus nous a souvent rappelé « Je suis le chemin ». Donc, il nous a montré comment on doit vivre comme être humain. Lui-même, Dieu, la parole de Dieu, il s'est incarné en être humain et il a montré à ses disciples comment on vit, qu'est-ce que Dieu attend de nous. « Fais-moi confiance », Dieu dit. Puis même dans Jérémie, il va se plaindre, il va dire à Jérémie, « Il m'a abandonné, moi qui suis une source intarissable, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent même pas l'eau. » Et trop souvent, c'est le danger dans nos vies de compter sur nous-mêmes et de compter sur nos moyens. Et ça, c'est vraiment un piège terrible. Vous savez que quand on arrive à la fin d'une vie, moi, dernièrement, j'ai vu, ça a été vraiment, ma mère, finalement, on est obligé de l'amener à l'hôpital, et puis là, ils sont en train d'essayer de la restaurer le plus qu'elle peut, avoir 90 ans, là, les os se refont pas trop vite, hein, puis, mais en même temps, il fallait vider tout son appartement parce qu'elle ne peut plus retourner là. Elle n'a plus moyen de retourner là. Et puis, ça faisait vraiment bizarre de tout vider l'appartement. Parce que souvent, nos maisons, il y a même une publicité qui dit « Nos maisons, c'est notre vie. » Hein? Une publicité que j'ai vue sur la TV. J'ai dit « Comment ça? Ta maison, c'est ta vie? » Voilà, c'est là. Nous autres, on peut juste dire « Notre vie, c'est Jésus. » C'est sûr que c'est trippant d'avoir une belle maison. Pas vrai, c'est le fun d'avoir une bonne maison, hein? Je suis content, moi, qu'il n'y a pas un arbre qui est tombé sur ma maison pendant que je suis en Gaspésie, là, tu sais. Mais, quand on va partir, on va tout laisser. J'ai des amis qui sont morts. Une amie, entre autres, qui était vraiment... elle était venue en Haïti avec nous autres, la femme... du pasteur à Rimouski, là, tu sais. Et puis, elle est morte d'un cancer. Puis, souvent, on s'appelait. Puis, je lui demandais, « Pouvez-vous me dire, tu sais, comment ça se vit, mourir? » Parce que, tu sais, c'est trop facile de parler à du monde. Surtout quand tu es en santé, tu peux parler niaiseusement à des gens qui sont en fin de vie. Elle dit, « En réalité, ce que je suis en train de vivre, c'est comme des petits deuils. » Elle dit, tu te rappelles, vous êtes venu, toi, ta femme, à ma maison. Eh bien, je suis en train de... Je vais perdre toutes mes fleurs. Elle avait fait un beau jardin, tu sais, une belle place. Là, c'est fini. Mon jardin, c'est fini. Puis ma maison. Puis après ça, on s'appelait, puis elle dit, là, je suis dans une autre étape, je sais que je vais, dans quelques jours, je vais partir. Il faut que je fasse le deuil de mes enfants, de mes petits-enfants. Je pars. Je vais tout perdre. Maintenant, tout dépend du Seigneur Jésus. Et c'est, je suis contente d'avoir marché avec le Seigneur. Tu sais, puis j'ai soutenu mon mari qui était pasteur. Et puis, elle dit, au moins, c'est rassurant parce que même si visuellement, je perds tout en ce moment, bien, je vais rentrer dans son héritage. Je vais tout recevoir. Tu sais, c'est fascinant parce que Paul nous rappelle, est-ce que vous réalisez que si vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une question de mérite de savoir. Tu sais, c'est de valeur parce que la lettre aux Galates, moi, je conseille à tous les catholiques de lire la lettre aux Galates. Parce que malheureusement, ils ont fait une réaction à la réforme. Et puis le concile de Trente a imposé des œuvres méritoires pour être sauvés. Et puis, c'est comme si la hiérarchie dans l'Église s'est donné un pouvoir qui n'est pas dans la Bible. Le pouvoir des sacrements. J'ai été deux dimanches à l'église catholique là-bas parce que j'ai un ami qui ouvre les portes, Xavier de Colomb. Ben, il s'est tourné vers le Seigneur. C'est le fun, parce que toutes les fois que j'arrivais, il me présentait à tout le monde. Jean-Marc. Et puis, finalement, j'ai été voir quelques personnes. Il y avait un gars qui chantait en avant. Puis, il dit, ah, tu sais, c'est Pâques, ça va être important, on va faire... C'est la Pâque. Ben, je dis, écoute, je n'irai pas prendre un hostie. Parce que je n'aime pas ce que le curé va dire. Il va dire, voici le sacrifice de l'Église. Le sacrifice que Jésus-Christ à la croix est mort. Dans Hébreux chapitre 10, il est mort une fois pour toutes. C'est lui le dernier. C'est son sacrifice. Il a initié par sa mort et son sang la nouvelle alliance. Tout est accompli en lui. Il nous a demandé, oui, de manger le pain et de boire la coupe en mémoire de lui. C'est comme s'il nous rappelle, faites-le pour vous rappeler l'amour que je vous ai manifesté en mourant sur la croix, en subissant toute la malédiction qui vous était destinée. Et puis, je suis ressuscité le troisième jour, comme je l'avais promis à mes disciples, pour montrer que moi, je peux payer la dette parce que Jésus-Christ est mort sans péché. Selon la loi de Moïse, selon la loi de Dieu, humainement, il ne devait même pas mourir parce que si le salaire du péché, c'est la mort, comment ça se fait que Christ est mort sur la croix? Il est mort à cause de nos péchés, par imputation. Et c'est comme ça qu'il nous sauve. C'est pour ça que quand quelqu'un dit « Non, non, moi, j'en ai rien à faire de Jésus. Ça, moi, je ne suis pas religieux. Je suis une bonne personne. Si Dieu existe et puis jamais je meurs, Dieu va me laisser rentrer parce que je suis une bonne personne. » Je dis « Attends, tu fais pitié. Est-ce que tu réalises que Dieu, le Père, qui a dit publiquement au baptême de Jésus, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il n'a pas épargné son propre Fils. Arrête de penser que Dieu est juste bon. Mets un petit « et » entre les deux mots. Dieu est juste et bon. Sa justice est accomplie en Jésus-Christ. Et si quelqu'un méprise Jésus-Christ, le considère finalement comme étant rien, les gens se destinent eux-mêmes dans l'éternité. Ou Jésus. Moi, j'aime mieux me fier à Jésus qu'à des petits clins boulamites. Tu sais, il y a plein de petits clins boulamites qui pensent qu'ils sont, ils savent. Tu sais, ils pensent qu'ils sont, on est juste de l'évolution. C'est vrai que je regardais les singes, ils nous ressemblent un peu des fois. Mais en réalité, il va falloir comme pour eux autres. Savez-vous que les païens, quand ils ont entendu l'Évangile, Paul va le dire juste au chapitre 3, un peu plus loin, il dit, « Avez-vous tant souffert en vain, verset 4, si toutefois c'était en vain? » Pourquoi les païens auraient souffert en vain? Pourquoi les Galates ont souffert parce qu'ils ont reçu l'Évangile d'après vous? Comme les Juifs, on peut comprendre. Parce que, est-ce que vous comprenez, un Juif qui se tournait vers le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, il doit croire que tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'est plus sous aucun régime de la loi. Parce que par le corps de Jésus-Christ, il est mort à la loi. Et puis en plus, maintenant, il est affranchi pour une liberté qu'on a en Jésus-Christ. Et ça, c'est une liberté. Ça fait peur à bien du monde, la liberté, parce que pour du monde, c'est comme vide. Tu sais, il n'y a plus de temple. Même le Seigneur avait annoncé qu'il va tout détruire en Israël. Il l'a annoncé, hein? Il va détruire le temple. Il va détruire toute l'image. Et les Juifs sont en crise d'identité majeure, parce que pour eux autres, ils se distinguaient de tous les peuples païens en disant « C'est nous le peuple de Dieu ». Mais en plus, s'ils lisent leur Bible, ils ont été rebelles contre leur Dieu tout le long. Et puis même le Seigneur va dire lui-même « à cause de vous, Israël, mon nom a été blasphémé parmi les nations ». Et puis je demande pardon au Seigneur parce que même le christianisme, depuis 2000 ans, les ennemis de l'Évangile en ce moment sont contents de rappeler toutes les fautes de certaines administrations religieuses. Pas vrai? Ça sort. Parce que finalement, il y a un danger. Il y a un danger de ne pas rester attaché aux Écritures et commencer à vouloir imposer le royaume de Dieu. Le christianisme ne fait pas une théocratie. Et c'est pour ça que quand les Occidentaux sont arrivés ici en Amérique, eh bien, finalement, au nom du christianisme, on a voulu détruire tous les peuples, au complet, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud. Et puis, même au Canada, le gouverneur fédéral mettait en prison des Autochtones, des Indiens, qui souvent faisaient des petites... tu sais, brûlaient de la sauge, là, pour... Et puis, c'était pour eux autres, c'est comme religieux. Et si la police les pognait, ils les mettaient en prison. Notre gouvernement... Non, il ne faut pas que j'en parle, je vais gâcher le message. Donc, nous, il faut comprendre une chose. Paul est en train de rappeler aux Galates, si vous retournez sous des choses religieuses, même païennes, parce qu'oubliez pas, chez les païens, ils étaient tellement religieux qu'ils même... Il avait fait des temples en Turquie pour César, pour les Romains. Tu sais, il y avait plein de lieux sacrés. Et puis, finalement, c'était des gens qui regardaient les jours, l'astrologie, par exemple. Tu sais, c'est une vieille croyance qui vient des Babyloniens. Tu sais. Il y a toutes sortes. Puis, il y avait beaucoup de... Puis, même aussi, quand on va dans certains... Dans certains pays, ceux qui se tournent vers le Seigneur, qui abandonnent les anciennes croyances de leur culture, ils sont considérés comme des traîtres. Et souvent, ils se font battre. Malheureusement, quand on va en Afrique, surtout le pasteur Joe, il m'a écrit, il dit, prie pour des petits villages qui se tournent vers, tu sais, plus vers le nord du Ghana. Il dit, malheureusement, il y a des gangs de musulmans qui rentrent dans les villages, qui battent les gens, violent des femmes, puis brûlent le village. Parce que l'islam, comme la religion du catholicisme, toute religion qui vous donne d'avoir des œuvres méritoires, ça vous donne finalement un orgueil et ça vous donne l'impression que vous avez le droit de juger les autres. Le chrétien, il n'est pas venu pour juger les autres, il est venu pour annoncer la seule bonne nouvelle à tous les perdus. Il parle, il va dire, non, je ne t'accuse pas juste d'être perdu. Moi, je suis un perdu sauvé. Jésus-Christ est venu sauver ce qui était perdu. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que tous ceux qui deviennent orgueilleux et méprisant les autres, détachez-vous ces gens-là. Parce que le Seigneur l'a dit, « Ceux qui s'élèvent, je vais les rabaisser. Mais ceux qui se rabaissent, qui voient ce qu'ils sont, je vais les élever. » Parce que c'est le Seigneur lui-même qui les porte. T'sais, comme Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est vraiment important qu'on découvre ces choses-là. Donc, il dit, quand on était, nous, sous la loi, on était considérés comme des enfants. Un enfant, il a beau être héritier, mais il n'a pas le droit de rien gérer. Il est comme un esclave. Il est sous ses pères, puis des administrateurs. Mais il dit maintenant, quand le Père Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Et pourquoi, d'après vous, Paul dit « né d'une femme » ? Tout le monde est né d'une femme. Même si en ce moment, il y a des niaiseries qui se font, puis il y en a qui se transforment en gars, puis que c'est des femmes qui accouchent. Il dit « ah, les gars, ils accouchent maintenant. » Non, je te dis, on est dans un monde qui aime ça être bizarre. Mais anyway, normalement, tout le monde sort d'une personne X, Y. Pas vrai? Maintenant, pourquoi il dit « né d'une femme » ? La parole de Dieu est d'une manière, d'une cohérence absolument fantastique. Dieu a promis à Adam et Ève que de la postérité de la femme viendrait celui qui va venir écraser la tête du serpent. Et puis, c'est ce qui est arrivé. C'est pour ça que Marie, quand Gabriel a été lui annoncer que tu vas avoir un enfant, elle lui dit, elle sait très bien comment, comment les enfants se font. Elle dit, attends, je ne connais aucun homme, je suis fiancée, mais on ne couche pas ensemble, moi et mon mari. On n'est pas mariés encore. T'sais, elle n'est pas mariée, ça fait que, elle était clean, était propre. Tant qu'elle n'était pas mariée, ils ne couchaient pas ensemble sexuellement. OK? Et puis, l'ange lui dit, non, non, c'est Dieu. Il va mettre sa main sur toi. Il va créer en toi. Il va faire en toi celui qui s'en vient. Et ce n'est pas n'importe quoi. Dieu a créé l'homme nouveau en Marie. Et quand Jésus est né, et c'est le fun parce qu'il est dit, Joseph ne connut point sa Marie jusqu'à ce qu'il alla accoucher. Ils se sont mariés. Puis quand elle l'a accouché, là, après ça, même si les catholiques capotent en pensant que Joseph couchait avec sa femme, écoutez, c'était pas un mariage en blanc, là. C'était, quand les gars se mariaient, ils se mariaient, puis les gars et les filles se mariaient, c'était pas juste pour jouer au tennis. Ils se mariaient, et puis ils ont eu des... C'est pour ça que Jacques, c'est le frère du Seigneur. Puis je sais que tout le monde essaie de trouver un autre mot pour empêcher que Jacques et puis Jude et puis d'autres soient les frères et sœurs de Jésus. Moi, j'ai hâte de les rencontrer au ciel. Jacques, toute la gang. « Hey, Jacques, raconte-moi comment tu vivais avec ton frère Jésus. » Tu sais, quand tu niaisais, t'as-tu découvert que tu niaisais Dieu? Imagine-toi ton grand frère, c'est Dieu fait homme. Pas n'importe quoi, ça. Et tout ça pour dire que quand Jésus est venu, il est né sous la loi. Et puis, est-ce que vous vous rappelez comment son ministère a commencé? Parce qu'il a vécu, tout petit, il n'a rien fait, il a vécu comme un être humain. Et puis c'est intéressant, en tant qu'être humain limité comme nous, il a dû apprendre à marcher, à manger, il a dû même apprendre les Écritures. Pas capotant, ça, la parole de Dieu qui apprend les Écritures. Hey! Et puis finalement, il va commencer son ministère quand Jean-Baptiste le précède. Parce que Jean-Baptiste l'a vu et puis il a dit, « Hey, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » L'agneau de Dieu. En Israël, ça a un sens très clair. Ça ramène en Égypte. Tuant l'agneau, mettez le sang à la porte et puis je vais vous sortir. OK? Il y a une cohérence dans les Écritures incroyable. Et Jésus a été devant Jean-Baptiste. OK, baptise-moi. Jean-Baptiste, non, 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 c'est moi. Baptise-moi plutôt. Non, Jean-Baptiste, tu ne comprends pas. Tu ne baptises pas les gens parce que tu es meilleur que les autres. Tu baptises parce que mon Père t'a appelé. Quand mon Père appelle, il justifie. Fais ta job. OK. Il l'a baptisé. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Pour s'identifier avec tous ceux qui reconnaissaient qu'ils sont coupables. parce que c'était une manière de manifester notre repentance. Oui, sous la loi fait juste identifier mon vrai problème. J'ai beau faire de manière externe la loi, mais je suis obligé de me lutter contre moi-même. Tu sais? Puis ça veut dire que si tu as fait un péché, en passant, d'après vous, c'est-tu facile de mentir? Ça sort tout seul, pas vrai? Ou encore d'haïr quelqu'un, tu sais? Parce que toute la loi se résume « aime ton prochain comme toi-même ». Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire « aime ton prochain comme toi-même » Est-ce que vous avez les moyens d'aimer les gens comme vous-même? Et ça coûte très cher. Donc, la loi était là pour identifier le péché. C'est comme, en d'autres mots, comme un médecin. Docteur, tu as besoin de trouver les symptômes pour qualifier c'est quoi le problème. Puis hier, j'ai été passer le scan, fait que tu vas me dire, il y a peut-être une partie du cerveau qui est partie, tu vas voir. Non, c'est vraiment trippant. Marcher avec le Seigneur, dépendre de lui, c'est toute une vie fantastique. Parce que tu ne dépends plus de toi à cette heure. Tiens, Paul le dit, ce n'est pas moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Donc, à tous les jours, un petit peu à tous les jours, à travers tous nos petits défis, on apprend à se confier dans le Seigneur. Comment on compte sur lui? Tiens. Et c'est comme ça que le Seigneur nous apprivoise. Il sait qu'on a peur de lui, on a peur de la vie. Puis en plus, on vit dans une société, même nous, si on devient chrétien, vous restez, vous allez vous... Souvent, les gens vous considèrent comme bizarre, pas vrai? Non, c'est malheureux de même, tu sais. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime mieux me fier à Jésus qu'à des petits boulamites. Parce que les petites boulamites, tu sais, qui niaisent devant tout le monde puis qui ont de la propagande. Je dis, c'est pas grave, chum. Moi, j'aime mieux me fier à Jésus qu'à une tête à claque comme toi. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu, tout l'Ancien Testament l'annonçait. Et puis en plus, quand il est venu, son Père, Dieu, a manifesté son approbation continuelle. Il a fait le témoignage que c'était le Christ, le Messie. C'était lui. T'sais? Et puis même, le plus beau miracle qu'il a fait avant, en terminant son ministère à côté de Jérusalem, parce que s'il y en a qui ont été à Jérusalem, tu sais, quand vous êtes sur le plateau en haut, on voit la vallée qui descend, puis c'est la petite place qui est la ville de David. Puis l'autre bord, il y a, tu sais, le jardin, puis juste l'autre côté, il y a le petit village de où Lazare et ses sœurs restaient. Oui, Béthanie. Et puis c'est quand même trippant parce que Jésus a laissé Lazare mourir. Il y a celui qui était malade, il l'a laissé mourir. Puis à un moment donné, il dit, OK, on va aller réveiller notre ami. Puis les gars disent, ah ben si, il est endormi, ça veut dire qu'il est guéri, ça va. Non, 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 il est mort, c'est à cause de vous. Les gars, comment c'est à cause de nous? On ne l'a pas tué, nous autres. Non, parce que je sais que vous avez le défi, c'est de croire que je suis la vie. Ça fait qu'il dit, venez-vous-en. Mais les gars avaient peur d'aller à Béthanie parce que c'était à côté de Jérusalem. Puis à Jérusalem, de plus en plus, toute l'élite intellectuelle et religieuse de l'époque cherchait à tuer Jésus. Et quand il est arrivé à Béthanie, même sa sœur était fâchée. Tu sais, tu fais des miracles quand c'est faisable. Parce que quand Jésus a ressuscité des morts, c'était le mort dans la même journée. Tu sais, le jeune, tu sais, quand il est sorti, il a vu d'un village, il y avait un petit gars qui était, puis la veuve a pleuré, son fils était mort. Puis Jésus a été voir le petit gars qui est mort. « Lève-toi! » Foum! Le petit gars, il revenait à la vie. Mais c'était un manchot. Tandis que là, il a attendu que Lazare ne soit pas un manchot, qu'il soit pourri. Quand il est arrivé, il dit, « OK, vous l'avez mis où? » Non, 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 c'est Marthe. Marthe, c'était... une administratrice. Et puis, elle a dit à Jésus, « Non, non, il pue! » Tu sais? Puis là, elle voit que Jésus ne l'écoute pas. Elle dit, « Non, non, ceux qui me font confiance, même s'ils meurent, ils ne mourront pas. » Puis elle a appelé sa petite sœur Marie, qui écoutait plus Jésus qu'elle. Parce que quand Jésus venait chez eux, c'est elle qui brossait la vaisselle. Puis elle faisait de la nourriture. Puis elle avait déjà dit à Jésus, « Hey, dis à ma sœur, elle perd du temps à t'écouter, qu'elle vienne m'aider dans la cuisine. » Marthe, elle fait ce qui est le plus important. Là. Pour Marie, c'était pas important. Pour Marthe, c'était pas important. Tu fais là, tu fais juste écouter des paroles, tout là. Anyway, ça fait que moi, je le trouve trippant parce que il dit, « Roulez la pierre. » Puis c'est sûr que Marthe voulait sauver la réputation de Jésus. Non, je sais que tu es capable de faire des petites résurrections quand les gens sont morts tout de suite. Tu sais. Mais lui, il est mort. Il pue. Il pue. Il est devant la tombe. Il prie à haute voix en disant, « Père, je sais que tu m'écoutes, mais je le fais pour que les gens puissent croire ici. » Lazare, sort. Bing! Lazare s'est levé. Il était tout attaché en plus. T'sais. Déliez-le. Et puis, il y avait des gens importants de Jérusalem qui étaient là. Ils ont tous capoté bien raide quand ils ont vu ça. Parce que quand Jésus est rentré dans Jérusalem, après, ils ont dit ça à la foule. Et puis, les autorités ont dit, « Hey, ça ne donne rien. Il faut le tuer. » Parce qu'il va tourner tout le monde vers lui. Et puis tuer aussi Lazare, parce que c'est un témoin. Moi, je suis sûr que Lazare était moins nerveux de mourir la deuxième fois. Là. Il savait comment mourir, tu sais. Mais Paul nous rappelle, quand Christ a fait son œuvre, il n'est pas mort n'importe quand, il est mort à cette fête de la Pâque. C'est moi l'agneau, c'est moi qui vais vous délivrer du pharaon de ce monde. Du prince des ténèbres qui vous tient captif. Et puis c'est comme ça qu'en mourant sur la croix, qui a ressuscité, et Paul dit, savez-vous, maintenant, on n'est plus des enfants, on est devenus des fils. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire, être des fils? C'est un petit gars? C'est un enfant. Quand est-ce qu'il va être un fils? À 18 ans. Puis j'aimerais juste qu'on puisse voir Jésus leur annoncer tout ça dans Jean 15, s'il vous plaît. Je suis désolé, les gars, parce que je n'ai pas eu le temps de travailler sur le message. Jésus nous dit, au verset 12, 15-12, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » C'est quand même fascinant. Je vous appelle plus serviteur, mais ami. Parce qu'il va partager avec nous ce qu'il veut faire. Verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc, c'est quand même fascinant. Le Seigneur, maintenant, collectivement, on va marcher dans sa volonté. C'est pour ça que c'est une des choses les plus importantes à discerner, la volonté de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le chef de l'Église, et en marchant dans ses œuvres. Et je vous remercie énormément parce que la majorité d'entre vous, vous participez par la prière, vous participez aussi par vos dons volontaires. C'est pour ça que je sais que les diacres me disent tout le temps, « Jeff, tu ne pries pas assez, tu ne parles pas assez dans tes messages de donner de l'argent quand c'est le temps de passer la... » Non, Moi, je n'aime pas demander de l'argent. De toute façon, j'aime mieux voir si le Seigneur touche votre cœur. Parce que le Seigneur dit que quand il nous touche, il prend plaisir de voir ceux qui donnent avec plaisir. Donc, ce n'est pas une question de faire de la pression ou de la manipulation sur des gens. Fait que merci pour tous ceux qui donnent parce que c'est votre communion avec Dieu qui l'amène. Et beaucoup de gens dans le monde en ce moment, dans des pays de grande misère, vivent à cause de vous autres. On soulage leur misère. Puis pas juste soulager la misère, parce que même si on nourrit et puis on a aidé finalement à développer de l'agriculture et ainsi de suite, on a bâti un hôpital, même. C'est fascinant ça d'avoir bâti. Tu sais, au Québec, il y en aurait besoin d'autres hôpitaux. Peut-être qu'on va faire de la mission au Québec, mais vite, là. Mais je me rappelle, j'étais avec Norman une fois, puis on s'en allait. Et puis, il dit, gars, arrête, on va prendre la madame et le petit garçon. OK. On était sur notre route à Tiverny. Et puis, il rentre et dit, te rappelles-tu de la madame? Non. Non, c'est elle qui disait, tu sais, dans la vidéo qu'on a faite, puis le petit bébé est en train de mourir. Et puis, le doc l'a sauvé. Puis, le petit poutre qui est là, c'est lui. Oh, ben, salut, petit poutre! Le Seigneur nous amène avec lui. Et c'est pour ça que Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie qu'on a reçue maintenant, là, c'est Christ en nous. Et on fait déjà partie de la nouvelle création. C'est vrai, comme Paul nous rappelle, nos corps sont morts à cause du péché. Mais tandis, notre esprit est vivant à cause de la justice de Dieu qui est donnée par imputation. Donc, ne soyez pas surpris des fois que ça va plus ou moins bien. Ce n'est pas parce que vous avez des péchés dans votre vie. J'ai un frère qui m'appelle d'un autre pays. Il dit, écoute, j'aime bien ça parler avec Jeff parce que, Jeff, tu es le seul qui m'écoute parce que j'ai trop de monde de mon église qui sont venus me donner des conseils. Non, tu es malade parce que tu as du péché dans ta vie. Tu n'as pas assez de foi. Ben, j'ai dit, écoute, si il s'approche de toi, tu peux y imposer les mains. C'est facile pour les gens en santé de faire sentir coupable ceux qui ne vont pas bien. T'sais. Anyway, c'est fascinant de marcher avec le Seigneur. Je sais, j'ai tanné d'entendre mes histoires, là, mais j'aimerais ça qu'on puisse reproduire la photo qu'Emmanuel a mise dans son bureau du gros bateau, le bateau blanc. Parce que c'est le fameux signe que le Seigneur nous montrait pourquoi il va nous amener en Haïti. Puis en plus, dans la parole qu'on avait reçue, Richard m'avait dit, en plus, Jeff, tu vas conduire le bateau. Bien, voyons, tu fais là que tu vas conduire le bateau. T'sais. Et puis comme de fait, quand on est parti, à cause de la tempête, la moitié de l'équipe vomissait. T'sais. Puis un de mes jobs, c'était de nettoyer les douches et les toilettes. Fait que c'est intéressant de voir ce que le monde a mangé. T'sais. Et puis, en même temps, le capitaine vient me voir et dit, « Écoute, Jeff, toi, tu ne vomis pas? » On n'a pas à date, non, non. Alors, regarde, on a passé l'équipier, je vais mettre un officier qui va vous coacher, puis je vais te mettre derrière la roue. C'est toi qui vas conduire. Conduire le bateau. Je capotais, je n'en revenais pas. Et je dis, « Seigneur, tu es vraiment une joke vivante. Tu es capable de prendre des imbéciles pour faire des choses incroyables. » Et puis, je conduisais le bateau, puis à un moment donné, le matin, toute la nuit, et puis je vois au bout, là, comme, tu sais, la montagne d'Haïti. Et puis, je n'en revenais pas. Je disais, Seigneur, c'est... Écoute, je te demande pardon de trop compter sur moi. Maintenant, apprends-moi à compter sur toi. Comment on fait de marcher avec toi? Tu sais, c'est facile d'être un petit boss de toilette. Ça ne me tente pas. Parce que c'est toi qui vas les sauver. C'est toi qui vas pourvoir. C'est toi qui vas faire ça. Et c'est pour ça qu'en marchant avec le Seigneur, c'est vous quoi? C'est comme ça que vous allez confirmer que vraiment vous avez été rejeté, que vous êtes devenu enfant de Dieu, adopté par le Seigneur. Puis pas juste un enfant, mais un fils. En d'autres mots, Jésus dit, « Maintenant, je t'appelle mon ami. » Jésus-Christ est retourné dans sa gloire, pas juste comme un Dieu, parce qu'il a toujours été la deuxième personne de la Trinité, pas vrai? Est-ce que vous réalisez comment il est retourné auprès de son Père? En Jésus de Nazareth. Pas fascinant, ça? Il est parti s'asseoir en Jésus de Nazareth sur le trône à côté de son Père pour devenir le nouvel homme de la nouvelle humanité. Et c'est pour ça qu'on vit de tous les bénéfices qu'il nous a acquis. Et c'est pour ça que malheureusement, nos corps qui font partie de la première création, on vit malheureusement, on ne peut pas appeler ça des bénéfices, là, mais les bénéfices de toutes les maladies qu'on a eues à cause d'Adam. Mais même la création, la nature elle-même attend la résurrection des fils de Dieu parce qu'elle va être délivrée de la malédiction dans laquelle elle est. Parce que, vous vous rappelez ce que Dieu a dit à Adam? Adam, même le sol est maudit à cause de toi. Maintenant, le nouvel homme de toute la création, le premier-né de toute la création, c'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, notre grand frère. Et c'est pour ça que d'apprendre à marcher avec lui, ça va affirmer de plus en plus notre vraie foi. Notre foi va passer à ce qu'on a entendu, on va y faire confiance, on y croit, comme il dit. C'est quelque chose de croire. Croyez, et puis quand on croit ou on fait confiance à quelqu'un, on s'attend à lui. Et n'oubliez pas, quand vous avez un problème, vous demandez à Dieu de la sagesse, attendez, c'est lui qui va vous la montrer. Vous allez voir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites connaître vos besoins au Seigneur, comme il a dit ici. Tout ce que vous allez demander en mon nom, il vous le donne. Et c'est comme ça que le Seigneur va s'occuper de nous autres. Et de plus en plus, quand les gens, vous allez annoncer l'Évangile à quelqu'un, ils vont dire, non, ça c'est ta religion, ça c'est ta croyance. Non, chum. Ce n'est pas juste ma croyance, ma religion. Moi, je me suis armé de plein d'histoires. Ça trouble mon monde quand je la rencontre. Surtout mon histoire de pain dans le bois, les capotes bien raides. T'sais. Ah, il était comment le pain dans le bois? Du pain. Hein, du pain. C'était pas un gâteau aux anges. C'est juste du pain bien ordinaire. Et puis en plus, le Seigneur m'a montré... Pour pas que tu penses que c'est du hasard, je vais m'arranger avec tous ceux qui t'ont ramassé, ils vont tous t'amener au restaurant, puis je n'avais pas d'argent. Non, j'étais. Ils ont tous pris le même mets, des hot chicken tout le long. J'en revenais pas. Ben, moi, j'aime bien les hot chicken. Quand je suis déprimé un peu, des fois, je m'en vais chez Saint-Hubert prendre un hot chicken. Jésus, on mange ensemble, let's go. Il est tellement trippant, le Seigneur. Il nous aime tellement. Et c'est pour ça qu'on peut annoncer l'Évangile à tout le monde. Tout le monde. Je suis venu sauver ce qui est perdu. Jugez pas. Maintenant, il nous amène avec lui dans ses œuvres. C'est pour ça que quand on va retourner bientôt en Afrique, c'est quand même fascinant de voir comment le Seigneur a pourvu. Hein? C'est incroyable. La première fois qu'on est arrivé là-bas, je me rappelle... Martin qui m'avait invité, puis on s'en va là, tu sais. Puis c'était tous les pasteurs, tu sais, de la... Puis je dis, OK, Seigneur, moi, je veux trouver le vrai, à qui on travaille. Tous les pasteurs sont venus me voir, « Hey, donne-moi de l'argent, donne-moi, il faut faire... » Non, j'ai pas une scène. Puis le seul qui me demandait rien, c'était Cujo qui restait assis, puis il me regardait en souriant. En me disant, « Hey, tu te fais niaiser, toi? » Puis à un moment donné, je suis allé prendre une marche avec lui, je disais, hey, tu ne m'as rien demandé. Non. Regarde, Jeff, m'a demandé quelque chose. Des questions théologiques. Tu sais, d'après toi, OK. Puis on a parlé ensemble. Et puis, c'est un privilège de travailler avec ce gars-là. Et c'est un phénomène, il se promène à la grandeur de la planète pour faire la formation de pasteur partout. Puis il m'a demandé, Jeff, peux-tu nous amener des livres? Je vais faire une bibliothèque parce que je vais faire un collège biblique. Ou c'est à Cotonou. Fait qu'on est 14 qui va y aller. Fait que je vais demander si on peut mettre des livres dans vos petits bagages. Ben oui, c'est pesant, des livres un peu. T'sais. Ah, c'est fascinant. Puis de pouvoir aider aussi monsieur qui s'occupe de... Comment il s'appelle? Édouard? Grégoire, c'est ça. Et lui, il fait un travail. Lui, c'est un gars tellement trippant, ce gars-là, parce que c'est un réparateur de pneus. Et puis quand il a vu finalement qu'on enchaînait des gens qui font des maladies mentales à des arbres, puis il laissait quasiment crever là, tu sais, Il a eu compassion, il a été les délivrer. Il les a pris chez eux même pour les aider. Puis il a crié au Seigneur en disant, comment je vais faire? Puis il y a un psychiatre hein, qui est venu de Paris, je pense, pour l'aider. Puis même un gars du Québec. Puis il a commencé à développer des centres un peu partout. Le gars fait un travail incroyable. Il restaure des vies humaines, c'est fantastique, mais en même temps, il leur annonce tout l'Évangile. C'est le fun parce que dernièrement, quand il était à votre compagnie, là, il dit, « Ah, c'est le fun parce que vous nous aidez pour être sauvés. » Je dis, « Non, non, M. Grégoire, on le fait parce qu'on est déjà sauvés. » « Ah oui, déjà? Oui. » Regardez, Romains 6, M. Grégoire. Faites pas ça pour être sauvés. Faites ça parce que vous êtes sauvés. Comment je fais-tu si je suis sauvé? Romains 6 nous dit, c'est un don gratuit. Vous avez juste à dire, merci Seigneur de me sauver, puis c'est tout. Ah oui, oui, dites merci Jésus, merci de me sauver. Puis il me regarde, oh Jésus, merci de me sauver. Puis il me prend ses bras, il capote ben raide. Ben, c'est pas moi qui sauve, c'est lui. Non, c'est trippant. C'est un privilège de travailler avec ces gens-là. Et puis le Seigneur nous amène dans ses œuvres pour soulager la misère, mais surtout pour annoncer la seule bonne nouvelle pour l'humanité. Parce qu'on s'en va tous vers la mort. Et le Seigneur veut nous délivrer de la mort et de la colère de Dieu, de la justice de Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi. En plus, est-ce que vous réalisez que la vie éternelle, c'est un don gratuit? En tout cas, on va continuer à sortir le message. Mais moi, supplions que le Seigneur lève toute une nouvelle génération d'ouvriers. Pas des auto-appelés, mais des gens que Jésus appelle lui-même. Parce que quand il appelle quelqu'un, il le rend capable. OK? Puis, parce qu'il y a des ouvertures en ce moment, un peu partout au Québec. Mais on manque d'ouvriers. Fait que c'est sûr, les gars veulent m'acheter une église là-bas, à Chandler. Un bâtiment. Moi et ma femme, on a prié pour « C'est quoi ta volonté, Seigneur? » Toi, tu penses à tes petits poutres? Ben, est-ce qu'on va voir c'est quoi la volonté du Seigneur? De toute façon, ce serait bien que le Seigneur appelle une jeune génération. Hein? Écoute, moi, dans 4 ans, j'ai 70 ans. On va sûrement commencer à me défaire en morceaux, là, tranquillement, hein? Donc, c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a aimés le premier. Je sais que ça trouble bien du monde, cette affaire-là. Mais moi, ça me rassure. Parce que savez-vous quoi? Il finit en disant, « Afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ayez pas peur d'intercéder pour les gens autour de chez vous à qui vous annoncez l'Évangile, parce que c'est le Seigneur qui touche les cœurs. » Vous vous rappelez, Lydie? Quand Paul est arrivé dans sa région, il dit, « Le Seigneur toucha le cœur de Lydie et elle écouta les paroles de l'apôtre Paul. » Et comme Paul le dit aux Corinthiens, « Moi, je ne suis pas venu avec un langage manipulateur et puis, tu sais, de la sagesse pour vous fasciner. Je suis venu annoncer la mort et la résurrection de Christ. » Puis il dit, « Je ne suis pas venu non plus pour baptiser chez vous, je suis venu pour annoncer l'Évangile. » Et puis ça, c'est, pour moi, c'est très encourageant parce que c'est le Seigneur qui sauve. Ça me rassure bien plus parce que je ne suis pas surpris quand j'annonce l'Évangile que les gens disent « Je ne veux rien savoir. » Mais même si tu ne veux rien savoir, je m'en fous, moi, là. C'est Dieu qui va avoir le dernier mot sur l'histoire. Tu ne veux rien savoir pour l'instant? Pas de problème. Ça, c'est-tu quoi? Tu confirmes la parole. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, l'Évangile est une folie pour lui. Fais-toi-en pas. Moi, je vais continuer à prier pour toi. Puis à un moment donné, tu vas craquer. Puis tu vas dire « OK, Jésus, merci de me sauver. » Puis tu vas venir t'asseoir avec nous autres. Puis c'est sûr qu'au début, tu vas être gêné. Mais ce n'est pas grave. On va t'accepter pareil. Tu vas faire partie des têtes à claques. Étends. Sauvé par pure grâce. Aucun mérite. Dieu ne nous a pas sauvés parce qu'on méritait, parce qu'on était meilleurs que les autres. Il nous a sauvés par amour. Il nous a aimés. Est-ce que vous comprenez ce que c'est l'amour? L'amour véritable, pas l'amour éros. Vous savez, c'est quoi la différence entre l'amour agapé et l'amour eros? Très important. L'amour eros, c'est l'amour par besoin. Ceux qui aiment de manière eros, ils vont même prendre. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui viole une femme, il le fait par eros. Tu sais, c'est vraiment une tête à claque. Tandis que l'amour agapé, c'est toujours vivre en fonction de favoriser l'autre, qu'il soit dans la totale sécurité face à nous. Et c'est de cet amour-là que Dieu nous aime. Et c'est pas n'importe quoi, parce que moi, j'ai souvent, tu sais, ça fait plus de 40 ans que je suis pasteur, j'ai entendu des histoires. Puis malheureusement, d'entendre des hommes et des femmes qui ont été abusés sexuellement. C'est pas n'importe quoi. Et quand ils lisent la Bible qui parle de Dieu qui aime, ils en ont peur. Même d'entendre le mot « père », parce que certaines filles ont été abusées par leur père. Hey, c'est pas n'importe quoi. Hein? Puis là, c'est dire, regarde, dis au Seigneur que tu as peur de ce type d'amour, tu as raison, et puis demande-lui qu'il t'apprivoise tranquillement. Parce qu'il n'aime pas comme les hommes. Nous autres, les humains, on est des menteurs. On est dignes de la colère de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est venu et qui nous a montré le vrai être humain que Dieu voulait créer dans le jardin. Mais quand Adam a brisé l'alliance, il est devenu un accusateur. Il est devenu quelqu'un qui a essayé d'être meilleur, même au détriment de Dieu. Tu sais? Parce que Dieu, finalement, avait fait un don à Adam en faisant Ève. Pas vrai? Il dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est comme ça que même Adam a connu lui-même nouveau. Il s'est redonné un nouveau nom. Parce que quand Dieu l'a créé, il l'a appelé Adam. Vous savez, ça vient de quel mot? Ça vient de quoi, ça, Adam? Terre. C'est féminin, Adama. Adam, il l'a appelé le terrien. Je t'ai tiré du sol. Et Dieu est esprit. Fait qu'en contraste entre lui et Dieu, il s'est connu comme étant terrien. Mais quand il a fait la femme avec la côte et qu'il a vu arriver, il ne l'a pas appelé Adama, mon anglaise. Ce n'est pas de la glaise. Il l'a appelé Isha. Parce qu'elle est sortie de Ish. Il s'est redéfini. Et c'est pour ça que la communion fraternelle entre nous, là, nourrie par les Écritures, ça va de plus en plus nous apprendre qui on est en Jésus-Christ. Je vous le dis, c'est fascinant, la vraie sanctification qui est plus que juste de l'hypermoralité. C'est vraiment séparé de toute l'illusion que le monde se donne. On trouve une liberté qui fait souvent peur aux gens. Parce que notre but, c'est de marcher avec le Seigneur. Il va nous amener dans ses œuvres. Comme Paul dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est fascinant ce qu'on vit. OK, il est midi 6, on va arrêter. Fait que Seigneur, Jésus, vraiment, je peux juste te remercier, puis je vais pouvoir te remercier éternellement. Et Dieu, ton Père, tu nous rappelles dans l'Évangile de Jean, que Dieu, ton Père, nous a tellement aimé le monde qui était carrément en rébellion contre toi, qui t'a donné, qui était venu en humain, au milieu de tes ennemis. Et Seigneur Jésus, je te remercie de ton amour, parce que tu es amour. Et Seigneur Dieu, tu ne nous aimes pas parce qu'on t'a stimulé ou on t'a charmé. Comme Jean nous rappelle, c'est Dieu le premier qui nous a aimés. Et si on t'aime aujourd'hui, c'est parce qu'on a vu à quel point que tu nous aimes en Jésus-Christ. Merci énormément. Saint-Esprit de Dieu, apprends-nous à marcher avec toi afin qu'on marche à la gloire de Jésus-Christ. Et les réformés avaient raison de dire « À Dieu seul la gloire ». Et merci de nous amener dans tes œuvres et de continuer à pourvoir généreusement, qu'on puisse discerner encore une fois, ta volonté. Parce que ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux dans notre vie, de marcher dans ta volonté. Merci d'avance. Merci de bénir tout le monde ici, Seigneur Dieu. Et merci pour que nos petits-enfants te connaissent, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur Jésus, tu es mon meilleur ami. On peut vraiment se fier à toi. Merci d'être vraiment, vraiment, tu le sais, tu es mon meilleur ami. Merci énormément dans le précieux nom de Jésus, Père, de nous avoir donné ton Fils unique, afin qu'il soit notre grand frère. Merci. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Merci d'être venu.